Bonsoir mes frères et sœurs. Sans plus tarder, ouvrons le plus grand des livres, Romains chapitre 8, verset 35. Je vous encourage à prendre quelques notes qui pourraient vous être fort utiles dans vos prochains cultes, personnels bien sûr. Romains chapitre 8, verset 35, regardez au travers d'une question le témoignage de l'apôtre Paul. Romains chapitre 8. Verset 35. Si je me permets de vous demander de prendre des notes, c'est parce que je sais qu'on oublie vite des choses importantes. Quand on oublie des choses secondaires, ce n'est pas grave. Mais on peut oublier des choses importantes, cruciales. Et croyez-moi que le diable fera tout pour vous voler des choses nécessaires à l'édification de votre âme. Romains chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Pas vainqueur, plus que vainqueur. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Notre Seigneur. Amen. Vous gardez la page, nous y reviendrons tout à l'heure. J'aimerais que nous fassions la lecture d'un chapitre dans l'Ancien Testament. C'est dans le prophète Daniel, au chapitre 3, une histoire merveilleuse. Il se pourrait que plusieurs ce soir soient interpellés par l'enseignement qui peut ressortir. Il y a beaucoup d'enseignements, bien sûr, qui peuvent ressortir du chapitre 3 de Daniel. Mais ce que nous allons voir peut amener plusieurs à faire une nouvelle expérience avec Dieu. Car je crois, comme nous l'avons vu dernièrement, que Dieu est le Dieu du surnaturel et que nous pouvons faire de nouvelles expériences avec Dieu. Ça aussi, le diable voudrait nous le voler pour que nous restions dans la théologie ou l'intellectuel. Daniel, chapitre 3. C'est un chapitre, mais ça vaut la peine que nous le lisions en entier. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or. Je vous laisse chercher, j'entends encore des pages qui tournent. Prenons le temps, c'est important. Daniel, chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jériconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jériconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce que vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas, sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement, Tu as donné un ordre après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambugue, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devaient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel, quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, et ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée ?» Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, retenez bien ce mot, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Il se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha à l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez !» Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que le caleçon n'avait point été endommagé et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur cœur plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Voici maintenant l'ordre que je donne tout homme, à quelque peuple, nation ou langue, qui appartienne, qui parlera du mal du Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse se délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone, et tout le monde dit... Quelle histoire! On va lire notre texte, gardez la page, un peu avant, dans Ésaïe 45, parce que là nous venons de lire que Dieu fit prospérer ces 3 hommes. Dieu, oui, par le biais de Nebuchadnezzar. Mais regardez quand même, dans Ésaïe 45, au verset 7, vous avez vu qu'on peut passer d'une situation de fournaise à une situation de prospérité. C'est bizarre, hein? Oui ou non? C'est écrit. C'est écrit, Ésaïe 45, verset 7, il ne faut pas oublier ces choses, elles sont vitales dans la vie d'un chrétien. Ésaïe 45, verset 7, « Je forme la lumière et je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Amen. Vous avez vu, ce texte commence par l'épreuve, une grosse épreuve, une très grosse épreuve, et il s'achève illico presto par la prospérité. Alors, il ne faut pas oublier une chose, le contexte dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un monde de plus en plus difficile. Vous le savez, à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est quelque chose de terrible. Nous savons qu'autour de nous-mêmes, les chrétiens peuvent se refroidir. Ça nous brise le cœur. On pourrait presque se regarder avec suspicion et dire, est-ce que mon frère, vous comprenez ce que je veux dire, restera fidèle? C'est pour ça que, bien sûr, si vous êtes là, c'est que votre souci, c'est d'aller de l'avant. Mais il n'empêche que nous devons vraiment nous exhorter les uns les autres. Est-ce que vous aimez vous exhorter les uns les autres? Est-ce que c'est important pour vous de faire du bien aux autres, de veiller les uns sur les autres? Est-ce que c'est important, ou est-ce qu'il n'y a que vous qui comptez? Moi et les petits oiseaux, moi je prie chez moi, moi c'est moi qui compte. Non, mes frères et sœurs, ces trois hommes, ils étaient ensemble, oui ou non? Ils étaient ensemble, c'était trois amis, ils ont pris la décision ensemble de rester unis dans l'obéissance. C'est important, est-ce qu'ils l'auraient fait seuls? Je ne sais rien, je pense. Mais il n'empêche que cette unité nous prouve que dès le départ, dans la vie chrétienne, nous devons veiller les uns sur les autres, nous aimer les uns les autres, nous exhorter les uns les autres, recevoir, avoir une véritable communion avec Dieu, car lorsque l'épreuve se présentera, avoir du courage à donner aux autres. Parce que croyez-moi, des épreuves, il y en a. Et il y en aura, peut-être de plus en plus sévères. Alors, il faut que nous soyons de ces gens qui ne soyons pas toujours découragés. Vous savez, il y a des gens, ils arrosent les plantes, c'est une image qui m'est venue à l'esprit ce matin, que quand ils voient que les feuilles tombent, ma plante, elle est en train de crever. C'est déjà, vite, vite, je l'arrose. Alors, il y a des plantes qui rigolent pas, c'est clair. C'est vrai ou c'est pas vrai, ça? Il y a des gens, ils arrosent les plantes que quand les feuilles commencent vraiment à faire leur triste mine. Il y a des chrétiens, ils sont exactement pareils avec leur âme. Ils commencent à reprendre un peu de fraîcheur que quand ils se rendent compte qu'ils sont dans un extrême danger. C'est dommage, parce que moi, quand je lis cette histoire, il y a de quoi en parler pendant des heures et des heures. Mais bien sûr, le temps nous manquant, je ne voudrais partager avec vous que quelques pensées. À savoir qu'il y a des choses sur lesquelles il faut absolument veiller. Paul a dit, trois choses demeurent. Vous vous rappelez ces trois choses? La foi, l'espérance et l'amour. Ça, ce sont des vertus, des grâces, sur lesquelles il faut absolument veiller. Absolument veiller. Je dois entretenir ma foi, je dois avoir de l'amour et je dois avoir de l'espérance. Parce que c'est bien la foi, mais croyez-moi, c'est bien. La foi, c'est, si vous voulez, c'est le présent, maintenant, je vais bien. Mais l'espérance, c'est l'avenir. Et c'est bien d'avoir de l'espérance. Croyez-moi, mes frères et sœurs, c'est bien. Alors, l'amour doit être là. Ce soir, vous pouvez dire, Seigneur, mais donne-moi de ton amour. Parce que je peux vous dire que pour traverser certaines épreuves, il vaut mieux aimer le Seigneur. Vraiment l'aimer. Et nous pourrions introduire cette réunion ce soir, si on devait faire une étude, vous voyez, de 7 ou 8 études sur ce livre, chapitre 3 de Daniel, nous pourrions vraiment parler de l'amour envers son Dieu. Que cet amour soit là dans notre cœur et qu'il nous presse, comme dit le Seigneur. Alors, cette histoire, vous l'avez lue avec moi, on l'a lue, elle est longue. Est-ce que vous l'aviez déjà lue, cette histoire? Oui, vous l'aviez tous lue, c'est sûr. Mais c'est extraordinaire de voir l'assurance qu'avaient ces gens. Car ces vertus dont je viens de parler ne peuvent que amener une véritable liberté. Vous comprenez bien que les vertus, elles ont des fruits. De la même manière que quelqu'un qui est découragé, désespéré, pénible, fatigant, ça a des répercussions. Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un qui est découragé, ça a des fruits, des mauvais fruits. De la même manière que quelqu'un qui développe ses vertus va également avoir de l'assurance. C'est pour ça que j'ai lu ce texte dans Romains. J'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Je me souviens de ce témoignage que j'avais lu dans un livre où c'est une femme qui va voir son mari la veille de son opération. Une opération sévère, une opération difficile. Et cette femme, elle dit à son mari, tu sais mon chéri, tout ira très bien. Et son mari lui dit, mais je sais que tout ira très bien, même si Dieu me reprend, tout ira très bien. Est-ce qu'il a eu raison de dire ça? Ben oui, parce que lui, il avait une assurance que sa vie était entre les mains de Dieu et que l'opération se passe bien ou que Dieu le reprenne, tout allait bien. Est-ce qu'il avait raison? Ben oui, pourquoi? Eh bien, parce qu'il connaissait Dieu, parce qu'il connaissait son Seigneur. Et le but de ses études, de ses exhortations, de ses sermons, vous l'appelez comme vous voulez, ça m'est égal, mais c'est que vous connaissiez davantage le Seigneur et que vous réalisiez que Dieu, il est fidèle. Il sait ce qu'il fait. Il sait que les épreuves peuvent venir. Ces histoires, pourquoi elles sont là? Eh bien, parce qu'à des moments, on pourrait le dire, ça chauffe à des moments. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça chauffe des fois là-dedans. Hein, et ça chauffe vite. Vous avez vu? Ces hommes, ils s'appellent, alors, dans le livre de Daniel, parce que Daniel aussi, on lui avait changé le nom. On l'appelait Belshazzar, Dieu de Bel. Vous savez, ces hommes, ces jeunes hommes, ils ont été amenés en captivité à Babylone. Et de suite, dès qu'ils sont arrivés à Babylone, la première chose qu'on a fait, on leur a changé leur nom. Et on leur a donné des noms de dieux païens. Ça, c'est la première chose. En vérité, le diable, c'est ce qu'il veut. Il veut de suite, on pourrait l'imager comme ça. Il veut de suite détruire notre personnalité, détruire notre identité. Parce qu'on a chacun notre identité, vous êtes d'accord? On a chacun notre personnalité. C'est extraordinaire. Même dans le ciel, quand nous serons tous égaux et tous parfaits, chacun aura sa personnalité. Les clones, c'est pas, je peux vous dire, c'est pas Dieu qui les a inventés. Nous sommes tous différents. Alléluia. Et ce que le diable veut, c'est détruire cette personnalité. Voilà, quand vous regardez la signification, Anania, c'est Shadrach qui s'appelait Anania, ça veut dire, voyez, il s'appelait Anania. Anania, ça veut dire l'éternel et miséricordieux. Et Anania, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ce n'est pas bon sûrement. Michael, c'est un joli prénom, Michael? Ça dépend qui c'est qui le porte. Hein, mais par exemple, dans la vie, c'était bien porté. Qui est semblable à Dieu, voyez, etc. On l'avait appelé Meshach. Abednego, c'est pareil, c'est l'adoration d'un dieu païen. Abednego, Azaria, ça veut dire l'éternel est fort, etc. Donc, ces trois amis se retrouvent dans une situation difficile. Et ils sont là. Est-ce qu'ils auraient pu se cacher? Est-ce qu'il n'y en a pas qui leur ont dit, mais écoutez, attendez, vous êtes ministre d'État, vous avez vu le poste que vous avez, ce n'est pas le moment de faire les malins. Moi, je m'en demande aujourd'hui comment ça se passerait. Écoutez, vous avez un témoignage extraordinaire. Ne commencez pas à vous prendre la tête avec cette affaire. Au contraire, vous avez une super poste, vous vous prosternez. Ça, il y en a pour 30 secondes, vous n'allez pas prendre la tête pour ça. Et vous ne croyez pas aujourd'hui que c'est comme ça que ça marcherait, hein? C'est sûr. Et moi, j'ai entendu de ces trucs graves. Hein? Je ne vais pas en parler parce qu'on passera la soirée à ça. Combien de chrétiens? Mais non, au contraire. Mais frères et sœurs, il y a un moment dans la vie, il faut savoir prendre position. Si on veut vraiment expérimenter la grâce de Dieu, elle est toujours, on pourrait mettre en filigrane tout le temps ce mot, l'obéissance. Dans toutes les prédications, dans toute notre vie, l'obéissance, qui vaut mieux que tout le reste. Donc ces trois amis sont là, ils sont placés, ils auraient pu se planquer, excusez-moi l'expression. Non, ils sont super bien placés, ils sont là, et eux, ils ne veulent pas adorer la statue. Ils sont déterminés. Vous allez me dire, mais moi, il est hors de question que je me prosterne devant une statue. Mais ça vaudrait la peine, ce n'est pas le but de la réunion de ce soir, de nous poser la question si beaucoup de chrétiens ne se prosternent pas devant tout un tas de choses du monde. Est-ce qu'elles existent, les statues aujourd'hui dorées? Pas les statues comme celles qu'on vient de lire, hein, mais est-ce qu'il n'y en a pas des idoles dans lesquelles les chrétiens se prosternent? Ce n'est pas le but de la réunion, mais c'est quand même... Ça vaut quand même la peine de méditer. Est-ce que je ne me prosternerai pas, pas de force, mais volontairement, devant des choses qui sont de véritables idoles? Donc, on relit la réaction de ces hommes, parce que c'est ça qui nous intéresse ce soir. Dans Daniel au chapitre 3, au verset 16, la fin du verset 16, ils sont là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils ne savent pas comment ça va se passer. Nous, on sait la fin de l'histoire, donc c'est bien. Mais eux ne savaient pas comment ça allait se passer. La preuve, c'est qu'on l'a lu. « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. » Il s'adresse à la personne la plus puissante de la terre à l'époque. « Voici, notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous livrera de ta main. » Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas passer par l'épreuve. Il nous délivrera de ta main. D'ailleurs, il dit « Sinon, ça veut dire que s'il ne nous délivre pas, vous le comprenez comme moi, s'il ne nous délivre pas, ça ne change rien. » Quel témoignage! Voyez, cette foi qui ne dépend pas d'une délivrance que Dieu va accorder ou ne pas accorder, mais eux, ils avaient un profond respect pour les choses de Dieu. Ils n'avaient pas peur. Pourquoi j'ai lu ce texte de l'apôtre Paul? Nous avons cette assurance que ni la vie ni la mort ne nous séparera de l'amour du Seigneur. Ils n'ont pas cédé, tout le monde s'est prosterné. Et nous sommes dans une société où tout le monde se prosterne devant le monde. Et des fois, on peut se retrouver tout seul. Cette histoire, elle est là pour qu'on comprenne bien qu'on peut se retrouver tout seul. Tant mieux s'il y a deux amis qui nous accompagnent, mais ça peut être parfois pire, et on peut se retrouver tout seul dans une église, tout seul dans une ville, tout seul dans une région, dans des situations difficiles. En tous les cas, pour eux, c'était réglé. Est-ce qu'ils ont bien fait? Oui, ils ont bien fait. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens, ils obéissent à Dieu si Dieu les bénit. Seigneur, si tu me bénis, je me consacrerai. Seigneur, si tu me fais ça, tu sais, je te donnerai davantage. Je ne te donne pas la dîme, mais Seigneur, je t'assure, si tu me guéris, je te la donnerai maintenant. C'est pitoyable, ça. C'est pitoyable. Alors moi, je ne veux pas juger parce que ce n'est pas mon rôle. Et puis ça, ce n'est pas mon devoir. Mais franchement, ça fait pitié. En tous les cas, eux, ils étaient dans une obéissance bénie. Dans une liberté totale. Parce que ces vertus que j'ai présentées au début de la réunion, ce n'est pas pour dire il faut être spirituel. C'est qu'elles ont des incidences bénéfiques. Nous ne nous rendons pas compte, parfois les choses sont présentées de manière légaliste, c'est dommage d'ailleurs. Mais lorsque les choses sont présentées de manière intelligente, il faut bien comprendre que les vertus amènent la bénédiction, la liberté. Et c'est ça que nous voyons. Ces hommes, ils étaient sages. Regardez au chapitre 1er. Ça vaut quand même la peine de lire certaines. Qu'est-ce que Dieu dit de ces hommes? Regardez. Daniel chapitre 1er, verset 17. Il y a des choses, il faut les lire. Parce que n'oubliez pas que c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui éprouve, on l'a lu. Et c'est Dieu qui fait prospérer. On l'a lu dans le même chapitre. Daniel chapitre 1er, verset 17. Dieu accorda. Tiens, est-ce que Dieu fait du favoritisme? Non, vous lirez le contexte, vous verrez que ce sont des gens qui cherchaient Dieu. Ils ne cherchaient pas la bénédiction parce que je peux vous dire qu'ils avaient été éprouvés et ils auraient pu râler toute leur vie parce qu'ils avaient été amenés en captivité. Captivité ou pas, pays ou pas, ils avaient décidé d'être pieux. Donc, verset 17, Dieu accorda à ces quatre jeunes, ils étaient jeunes, de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Gloire à Dieu. Est-ce que vous croyez que c'est possible aujourd'hui que quand on développe certaines vertus, il va de soi que Dieu va nous accorder de la sagesse et de l'intelligence? Eh oui. Mais soyons simples comme des enfants, mes frères et sœurs. Si nous développons certaines vertus, il va de soi que Dieu nous accordera de la sagesse, de l'intelligence. En français courant, ça veut dire de la maturité. Et c'est ça qui fait le témoignage dans une église lorsque les chrétiens sont mûrs. Et c'est ça la liberté. Quand Paul dit « j'ai l'assurance que rien ne me séparera de la mort de Jésus-Christ, que nous serons plus que vainqueurs », vous vous rendez compte, c'est déjà bien la victoire. Qu'est-ce que vous voulez être, vous, vainqueur ou plus que vainqueur? Ben oui, c'est sûr. Mais oui, mais comment ça se fait que des chrétiens soient dans la victoire et des chrétiens soient toujours dans la défaite, des chrétiens soient dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu et des chrétiens soient toujours découragés? Est-ce que Dieu fait du favoritisme? Est-ce que Dieu plouffe ici et là pour savoir qui c'est qu'il va bénir? Bien sûr que non. Ce sont des choix. Vous regardez le livre de Daniel, malgré ce qu'on leur a imposé, jusqu'à leur changer les prénoms en des noms de dieux païens, eux, ils ont décidé de rester fidèles à leur Dieu. La preuve? C'est que ça valait vraiment le coup, parce qu'on en a, on a des enseignements extraordinaires. Il y a une vraie liberté. Vous y croyez que cette liberté, elle existe? Même quand un tyran peut imposer que tout le monde l'adore? Ben oui. Je peux vous dire que cette histoire, elle nous fait du bien aujourd'hui, mais elle fera du bien aux rétrogrades qui vont se convertir pendant la grande tribulation, parce qu'ils comprendront certaines choses, croyez-moi, parce que nous on calcule avec nos petits trucs, mais moi je vous dis qu'il y a des textes dans la Bible que Dieu a certainement voulu aussi pour fortifier les croyants qui ne seront pas enlevés et qui devront subir de la fournaise, croyez-moi, parce que ça va chauffer une fois que l'Église sera enlevée. Mais ce sont des textes qui vont faire, je crois, beaucoup de bien à ceux qui ne seront pas prêts, hélas. Ces trois jeunes garçons, ils aimaient Dieu. Il n'y avait pas Daniel. Daniel devait être, comme il était ministre aussi, devait être dans une autre province, on le voit plus loin. Donc ils étaient là, sans Daniel, sans leur chef, mais ils étaient là. Il n'y a pas toujours besoin d'avoir le chef avec soi. Notre chef, c'est le Seigneur. Ils sont là dans cette paix. Vous savez, comme Paul dit, la paix qui surpasse l'intelligence. Ça, c'est extraordinaire. Bien sûr, c'est le top niveau dans la vie chrétienne. Lorsque la paix surpasse l'intelligence, c'est-à-dire que vous n'êtes pas perturbé par une analyse d'un conflit, que vous en arrivez à cette dimension. Bien sûr, ça vient aussi de l'obéissance. Donc, Dieu sait ce qui est le meilleur pour nous. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous êtes sûr que Dieu sait ce qui est le meilleur pour vous? Mais il ne répond pas toujours comme on demande. Donc, je le répète, est-ce qu'il y a des dieux dans lesquels vous vous prosternez encore? Le Seigneur saura s'en occuper. Est-ce que vous demandez au Seigneur que ta volonté soit faite? Est-ce que c'est une prière vraiment qui sort de votre cœur? Parce qu'on peut la faire d'une manière superficielle. Seigneur, que ta volonté soit faite, mais en vérité, on n'en a rien à faire. C'est une façon de se faire croire qu'on est spirituel. Mais il y a des gens qui, pour qui, quand ils disent Seigneur, que ta volonté soit faite, c'est vrai. Donc, ça fait que Dieu va diriger les circonstances des épreuves de la même manière qu'il peut de suite engendrer la prospérité. C'est pour ça que j'ai tenu à lire ce verset dans le prophète Ésaïe. Donc, il y a deux possibilités. Ou croire que Dieu nous abandonne. Tiens, il permet ça, c'est pas possible. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? Et pourquoi moi? Et pourquoi nous on est là? Et pourquoi Daniel, il a eu du bol, lui. Daniel, on l'a envoyé dans la province, là-bas, faire son boulot. Et nous, on est là, obligés de subir ce truc. Vous savez, on peut s'en poser des questions. Oui ou non? Vous savez, quand on prend un livre comme ça, moi, je vous pose 250 questions à chaque verset. Mais ils sont là, et ils sont dans cette épreuve qui va devenir forte, mais ils savent que Dieu est souverain. Est-ce que ce soir, dans votre cœur, vous pouvez répondre à cette question? Est-ce que vraiment vous croyez que Dieu, ne répondez pas à haute voix, que Dieu est souverain? Est-ce que vraiment vous dites oui, je crois que Dieu est souverain? Si vous le pensez, laissez-moi vous dire que vous êtes en bonne voie. Donc, ces trois amis ont décidé d'obéir à la parole et le résultat, bien sûr, ils le mettaient dans la main du Seigneur. Soit Dieu intervenait, ce qui s'est passé, c'est merveilleux, soit Dieu n'intervenait pas. Et c'était pas merveilleux. Ah, si, bien sûr. Ni la mort, ni la vie. Est-ce qu'ils seraient au ciel, Shadrach, Meshach et Abednego? Bien sûr. Nous, on est là, avec nos petits calculs, bien sûr. D'ailleurs, ils l'ont dit, sinon, si Dieu ne nous délivre pas, ça ne changera rien. C'est beau, ça, hein? C'est ça l'intelligence. La sagesse, puisqu'ils sont décrits ainsi, et la maturité spirituelle qui provoque une véritable liberté. Mais notre responsabilité, donc à nous, ça devrait être d'obéir. Est-ce que je me prosterne? Parce qu'après tout, ce n'est pas à moi de vous dire, oh oui, vous êtes tout le temps devant votre ordinateur en train de regarder si vous êtes là, ça vous empêche de faire votre culte, donc le dieu Google, c'est une idole, etc. Moi, ce n'est pas mon travail, ça. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit, de vous montrer. Vous croyez que Dieu peut le faire? Vous croyez que c'est au pasteur à culpabiliser, entre guillemets? Il y a la bonne culpabilité, quand ça vient de Dieu, c'est excellent. Puis il y a la fausse culpabilité. Moi, je crois que quand quelqu'un se tient devant Dieu, le Saint-Esprit l'éclaire. D'accord? Voilà. Donc c'est à chacun de nous d'être honnête. Et Dieu nous accordera, comme il l'a fait pour eux, de la sagesse, de l'intelligence. Et bien sûr, ça produira une véritable maturité. Donc ces trois amis ont été intelligents, ils ont obéi. Et je pensais à une question qui est dans le livre de Job. On a posé un jour à Job cette question. Job n'aime-t-il pas Dieu en vain? Les amis, ils étaient forts, les amis de Job. Job n'aime-t-il pas Dieu en vain? Moi, je peux vous dire qu'on n'aime pas Dieu en vain. Quand on aime Dieu, c'est tout le temps une bénédiction. Croyez-moi. C'est le monde là qui essaie de nous faire croire que notre vie, elle est perdue. Donc, il y a cette fournaise dans laquelle ils vont être jetés. Vous avez vu, ça devait chauffer. Les gars qui ont jeté, les soldats qui ont jeté les amis, ils sont morts brûlés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, quand je pense des fois à ces hommes, vous allez dire, il est fou ce pasteur. J'y pense des fois, je me suis dit, quelle mort bête. Hein. Vous vous rendez compte, eux, ils sont morts. Je ne sais pas comment ils étaient. Ils étaient au moins 6. Vous voyez, à prendre 2, ça fait pitié. Vous ne trouvez pas? Vous savez que des fois, je pense à ces soldats. Je me suis dit, mourir comme ça, mais non, mais franchement, il y a des gens bêtes. Hein. Je ne parle pas pour eux, je ne parle pas pour lui. Je pense que le roi Nebuchadnezzar, quand même, il était pas mal. Il y a des choses qui nous étonnent dans la parole de Dieu. Mais, qu'est-ce que nous voyons? Ce que j'aimerais dire en conclusion, après on pourrait prendre chaque verset et les disséquer et voir certaines choses, mais je voudrais retenir deux choses. Vous avez vu comment ça s'est passé? Le roi demande à ce que les trois amis soient liés. D'accord? Ils sont liés. Est-ce qu'ils avaient que les mains liées? Ils étaient liés. C'est dit plusieurs fois. Vous êtes avec moi, vous l'avez lu avec moi. Hein? Et je pense que ça vaut la peine de retenir ce que je vais vous dire. Si vous n'avez pas retenu le reste, ce n'est pas grave. Alors, verset 21, c'est écrit. Ces hommes furent liés. Ça, c'est l'épreuve. La fournaise est plus liée. Ça craint quand même. C'est déjà pas mal. Donc, verset 23. ces trois hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, tombèrent, donc ils devaient être bien liés, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. C'est une image terrible quand on se la représente. Imaginez-vous ce feu qui devait se dégager de partout pour que les soldats qui les ont jetés soient morts, brûlés. Ça devait être un truc de fou. À moins que vous pensiez que ça soit une légende. Les soldats meurent, ça devait être épouvantable. Et tout d'un coup, on se rend compte que ces hommes qui sont liés sont déjà déliés. Tiens, l'enseignement, parce que soyons pratiques, tiens, une épreuve, si sévère soit-elle, permise par Dieu, si je la vis dans l'obéissance, aurait-elle le pouvoir de me délier? Oui ou non? Ben oui. D'autant plus au verset 25, on le voit, c'est extraordinaire, n'oubliez pas que c'est écrit pour notre instruction, il faut qu'on apprenne quelque chose de cette affaire. Il reprit et dit, eh bien, je vois trois hommes sans lien. Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Oui ou non? Ça aurait été déjà bien qu'il n'y en ait que trois, non, en train de... ou deux. Bon, il y en a un qui était fatigué, mais admettons que les deux autres ne le soient pas trop. Écoutez bien, mes frères et sœurs, c'est écrit pour nous bénir. Le quatrième, qui c'est le quatrième en fait? Parce que c'est un soldat. Qui c'est ce quatrième qui ressemble à un fils de Dieu? C'est le Seigneur Jésus. Je ne sais pas si quand on le lit pour la première fois, peut-être qu'on ne réfléchit pas. Mais est-ce que Dieu aurait pu les délivrer sans qu'ils soient avec eux? Mais bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Réfléchis, écoutez bien mes frères et sœurs. Vous resterez fidèles avec des trucs pareils. Ça veut dire que dans nos épreuves les plus graves, il est avec nous. Il nous accompagne. C'est ça l'incarnation. On peut le projeter en évangélisation et parler de l'incarnation. Il nous a rejoints dans notre fournaise, dans notre bourbier, dans notre misère, dans notre chaleur excessive. Il nous rejoint, que son nom soit béni. N'oubliez pas, c'est Dieu. Il est là avec eux, à côté d'eux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte l'expérience qu'ils sont en train de faire. À moins que vous croyiez que ce soit une légende. Est-ce que vous croyez que cette histoire est vraie? Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on obéit, il est là. Gloire à Dieu. Que quand on obéit, il nous accompagne. Que quand on obéit, il sait ce qu'il fait. Oui, il permet des épreuves costauds. Mais vous avez vu, de suite après, ils vont prospérer. Parce que Dieu change les temps et les circonstances. On l'a lu pour le jeûne et prière. Et je vous encourage, à vous qui ne venez que pour la réunion, à venir pour combattre le bon combat. Parce que ces expériences-là, plein de gens peuvent les faire. S'il y a un esprit d'obéissance, parce que je le répète, même si je n'avais pas eu l'intention au départ, mais de reparler de l'obéissance. C'est l'obéissance qui a fait que ces jeunes gens, malgré tout ce qu'ils ont souffert, parce que je l'ai déjà dit dans notre prédication, il y a de très très fortes chances qu'ils aient vu leurs parents se faire massacrer, égorger, peut-être leurs frères et sœurs, leurs amis. Ça a déménagé quand Nebuchadnezzar s'est emparé d'Israël pour amener les meilleurs à Babylone. Ils ont vu des choses, ils n'ont pas abandonné Dieu. Ils ont appris l'obéissance au travers de la souffrance. Ils ont appris l'obéissance. On a changé leur nom, ça ne change rien. Moi, je resterai fidèle. Et au moment de l'épreuve, qui sait qu'on voit dans la fournaise le Seigneur avec eux. Moi, ça me fait du bien. Moi, je trouve que c'est bien. Je vois quatre hommes qui marchent sans lien. Vous avez vu au verset 27? Moi, j'aime ça, parce que quand même, c'est la précision de Dieu. Alors, ils ont été jetés dans le feu. Bon, ils auraient pu quand même se faire griller quelques poils. Vous êtes d'accord avec moi? Oui ou non? Mais ils auraient pu avoir, s'ils avaient un peu la barbe un peu longue. Oui ou non? Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés. Moi, je trouve que la protection, c'était pas mal fait. Que leurs caleçons n'avaient pas été endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints.
Rien ne les a atteints.
Il n'y a qu'une chose qui a brûlé. Les liens. Je ne sais pas si vous êtes soucieux de faire des progrès avec Dieu, mais j'aimerais quand même qu'on réfléchisse comment Dieu est grand. Rien n'a brûlé, même pas un cheveu. Quand ils sont sortis, ils ne sentaient même pas le cramer. Et pourtant, leur lien a été brûlé. Vous pouvez dire Amen. Mes frères et sœurs, cette histoire, elle enseigne que l'obéissance, même s'ils avaient été brûlés, de toute façon, ils étaient bénis. Quand vous lisez Hébreux chapitre 11, c'est ma conclusion, vous avez lu Hébreux chapitre 11, vous avez vu, il y en a qui, par la foi, ont échappé au tranchant de l'épée. Mais il y en a qui, par la foi, sont passés au fil de l'épée. Il y en a, par la foi, qui sont sortis de prison. Il y en a, par la foi, qui sont morts en prison. Et ainsi de suite. Il y en a, par la foi, qui ont vécu des expériences, d'autres qui en ont été délivrés. On le voit plusieurs fois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, la première fois que j'ai lu ce chapitre, j'ai dit, mais j'ai été vraiment pasteur d'ailleurs. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et il m'a dit, tu sais, la foi, elle endure ou elle accomplit certaines choses. Ce qui est important, c'est de garder la foi. Et c'est vrai, quand vous lisez la conclusion d'Hébreux 11, vous voyez ça, c'est impeccable. Ce que la foi peut endurer, ce que la foi peut accomplir. Ce qui est important, c'est d'obéir. Et quand on obéit, quelle que soit la fournaise, les liens, ils tombent. Il y a des gens qui sont liés par tout un tas de trucs, ce n'est pas la peine d'en parler, parce qu'ils n'obéissent pas. Et mes frères et sœurs, si on devait concentrer toute la Bible en un seul mot, c'est l'obéissance. Joyeuse, pas l'obéissance contrainte, ça ne sert à rien, ça ne tient pas. Ben, je le fais parce qu'il faut le faire. Monsieur Gou, il n'arrête pas de nous dire qu'il faut obéir, donc j'obéis. Ça ne tiendra pas, n'essayez même pas. Faites-moi confiance. Une obéissance de cœur. Je lui fais confiance. Est-ce que Dieu est digne de confiance? C'est ça la question qu'il faut poser. Mais c'est comme ça qu'il faut sortir de cette église. Oui, Dieu est digne de confiance. Il a le devoir de m'éprouver. Bon, peut-être pas aussi chaud, ça chauffe comme ça, mais ça ne fait rien. Seigneur, tu peux m'éprouver. C'est peut-être, en ce moment, c'est la maladie, c'est peut-être dans mon foyer, c'est peut-être dans ceci, dans mon travail. Seigneur, tu m'éprouves, mais moi, que tu agisses d'une façon ou d'une autre, ça ne fait rien. Moi, je te servirai. Point barre. Ou amen plutôt. Mes frères et sœurs, nous avons là une histoire extraordinaire. Dieu sait comment détacher les liens. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Après tout, ils auraient pu ressortir. Dieu aurait pu les faire ressortir comme ils sont rentrés. Oui, moi j'aurais fait comme ça si j'avais pu. Vous voyez? Non. Déliés. Je vois quatre hommes sans lien qui marchent. En plus, le Seigneur est avec eux. Il nous accompagne. Je ne sais pas ce que je vais traverser, mais je sais une chose, c'est qu'il m'accompagnera. Non? Des hommes qui marchent sans lien. D'ailleurs, c'est le titre que j'avais donné à ma prédication, je crois. Je vois quatre hommes sans lien. Ouais, c'est le titre que j'ai donné. Moi, je crois que ça vaut la peine de lui demander quelque chose ce soir. Vous avez vu, Nebuchadnezzar, dans la même heure, il les a fait prospérer. Est-ce que Dieu peut changer le mal en bien? Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir, Seigneur Jésus, je te fais confiance? En plus, tu viens dans mon épreuve. Moi, ça me bouleverse, franchement, parce que je sais que c'est vrai. Vous êtes heureux si vous pouvez dire, ça chauffe un peu en ce moment, mais je sais qu'il m'accompagnera. On ferme les yeux quelques instants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire une expérience, dire Seigneur, tu ne sais pas ce qui m'attend. Oui, tu crées la prospérité. Oui, tu crées l'adversité. Seigneur, tu changes les temps et les circonstances. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit ce soir-là? Dieu vous regarde. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, mais Seigneur, c'est vrai, ça peut, c'est pas compliqué. Ça se résume à l'obéissance. Combien de gens restent dans l'épreuve? Parce qu'ils n'obéissent pas. Alors je peux vous dire, ça chauffe de plus en plus et ils finissent par brûler. Sans compter ceux qui iront, et sans mauvais jeu de mots, hein, sans compter ceux qui iront brûler en enfer. Et là, il n'y aura pas la quatrième personne pour les accompagner, je vous le dis. Mais s'il y a quelqu'un ce soir qui conclurait, en disant, Seigneur, mais moi, je ne peux pas douter. Même si tu me places dans une situation où on me voit, je suis obligé de prendre position. Tant pis. Daniel, lui, n'a pas eu à vivre cette épreuve. Quelques jours plus tard, il était dans la fosse aux lions. C'était une autre épreuve. C'était quand même pas mal non plus. Mais quelle que soit l'épreuve, ou la prospérité, parce que ces hommes ont terminé riches, ce sont des gens qui, ils étaient tous ministres d'État, tous les quatre. C'est pas grave ça, que vous soyez ministre ou femme de ménage, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est d'être fidèle jusqu'au bout. Est-ce qu'on pourrait terminer en priant, vraiment dans le cœur, en lui demandant, Seigneur, moi je veux ces vertus qui produiront cette sagesse, cette maturité, cette intelligence, parce qu'après tout quand même, il en est parlé. Je veux cette obéissance qui produira cette assurance qu'avait l'apôtre Paul, vous rendez compte? J'ai cette assurance de rien, rien dans le ciel ou sur la terre ne me séparera de Jésus. Je ne sais pas où nous en sommes tous, où tu en es, mais le Seigneur Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et il veut t'accompagner dans la prospérité, parce que tu seras peut-être encore plus en danger dans la prospérité. Croyez-moi, combien de chrétiens ont abandonné Dieu dans la prospérité. Ils n'avaient plus besoin d'aide. L'argent suffisait. Je ne sais pas ce qu'on traversera, mais une chose est sûre, c'est que le quatrième homme, il nous accompagnera. Toujours, il a promis, je suis avec vous tous les jours. Je ne sais pas la fournaise dans laquelle vous pouvez être, mais Dieu, il le sait. Et il ne se moque pas du Seigneur, il ne se moque pas de vous. Je ne sais pas s'il y a des gens, des choses, des épreuves qui vous ont lié. Mais moi, je vous dis, de la part du Seigneur, si vous obéissez, il vous délivrera. Sans qu'aucun de vos cheveux ne soit touché. Il est le spécialiste de la restauration, notre Seigneur. Alors prions quelques instants avec cœur. Pas pour prier, pas parce qu'il faut terminer la réunion, parce que c'est comme ça, dans les ADD, on termine en priant. Non, une prière du cœur. Pensez à une fournaise. Je ne sais pas quoi, qui, mais pensez-y. Et dites, Seigneur, tu fais la même chose. Il vous sera fait selon votre foi. Demandez, a dit Jésus. Demandez, cette fois, il l'a dit avant de monter au ciel. Cette fois, demandez et vous recevrez. Notre Père, nous te remercions pour ta sollicitude. Pour la façon dont ces histoires nous montrent combien tu sais nous accompagner, que tu es là dans la fournaise avec nous. Vraiment, Seigneur, merci. Que tu as le pouvoir de détacher tous nos liens, quelles que soient les épreuves. Seigneur, merci pour cette histoire. Que chaque histoire de la Bible développe en nous cette maturité réelle, cette intelligence, cette sagesse, que nous pourrons rendre le même témoignage que l'apôtre Paul. Nous te bénissons, oui, nous le croyons, que tu es le Dieu de la restauration, le Dieu du surnaturel. Vraiment, Jésus, merci. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour la façon dont tu sais nous accompagner. Merci, Seigneur Jésus. Amen.